Bischofstaub, franchise. Il existe une sorte de franchise qui est le résultat d'absence complète de soupçons et qui exige une entière ignorance du monde et de la vie. Cette espèce qui fait appel à notre générosité et à notre tendresse. Puis vient la franchise d'un esprit fort, mais pur, connaissant la vie claire dans ses distinctions, droite dans ses intentions, et au-dessus de tout déguisement ou mensonge. Cette sorte inspire le respect. La première semble ne procéder que par instinct, et la seconde de l'instinct et de la réflexion réunies. La première procède en partie de l'ignorance, la seconde se fonde sur une confiance éprouvée en soi-même. On disait d'Alice H. qu'elle avait l'esprit d'un homme, le cœur d'une femme et le visage d'un ange. Combinaison que nos lecteurs trouveront sans doute fort heureuse. Jamais femme ne fut moins ressemblante à la société en général dans ses opinions et dans ses actes. Et nulle ne fut plus généralement populaire. Mais la qualité la plus remarquable en elle était sa supériorité orgueilleuse sur toute dissimulation de pensée, de parole ou d'action. Elle plaisait car elle divulguait une quantité de choses que vous eussiez tenues secrètes et les révélait avec une assurance digne qui vous faisait mettre en question pourquoi vous hésitiez à les dire vous-même. C'était l'intégrité, calme et bien dirigée, par un sentiment juste et profond des convenances, sachant se taire ou dire la vérité lorsqu'il fallait parler. Sa franchise extraordinaire trompait souvent des observateurs superficiels qui croyaient connaître à fond son véritable caractère lorsqu'il n'en avait que les prémices. Comme on dit que la transparence de la laque trompe l'œil sur son épaisseur, et pourtant, plus on la connaissait, plus le médium transparent de son caractère présentait des circonvolutions et des variétés. Mais libre à vous de rendre service visite ce soir par une demi-heure à Mademoiselle Alice, et de la juger par vous-même. Entrez dans ce petit salon. La voilà, assise sur ce sofa et cousant une paire de manches de blonde dans un costume de satin. Emploi particulièrement angélique, devant lequel persévérera jusqu'à ce que nous ayons achevé une autre esquisse. Voyez-vous cette jolie fille, aux yeux étincelants, à la taille souple, mains et pieds divins, qui est assise de l'autre côté? C'est une coquette, dont le caractère en est peint sur son visage. Il étincelle dans ses yeux, il se cache dans son sourire et prédomine dans toute sa personne. Mais Alice s'est levée pour se poser devant la glace et arranger les plus beaux cheveux du monde de la manière la plus gracieuse. La jolie fille de l'autre côté guette chaque mouvement avec autant de comique qu'un petit chat guette une pelote de fil. « Vous auriez tort de le nier, Alice. Vous éprouvez la plus grande envie de paraître jolie ce soir, dit-elle. Oh, je le sais, sans aucun doute, répliqua paisiblement Alice. Ah, et vous espérez plaire, monsieur A et B? Dit le petit ange accusateur. Sans aucun doute, je l'espère, dit Alice, passant ses doigts dans une boucle de cheveux. Oh, je le penserais que je ne voudrais pas le dire, Alice. Alors, il fallait pas me le demander. Eh bien, je déclare, Alice. Voyons, que déclarez-vous? Que n'ai jamais connu de fille comme vous. C'est bien possible, dit Alice, en se baissant pour ramasser une épingle. Pour ma part, dit la petite personne, je ne prendrai jamais la peine de me faire aimer par quelqu'un, particulièrement par un gentilhomme. Mais je le prendrai, dit Alice, s'il ne voulait pas m'aimer sans cela. Je ne vous savais pas, Alice, si avide d'admiration. Si Dieu nous a ainsi faites que nous sommes et que nous dussions aimer l'admiration, pourquoi n'en conviendrions-nous pas honnêtement? Je l'aime, vous l'aimez comme les autres. Où est le mal d'en convenir? Oh, sans doute, dit la petite jeune personne, que tout le monde professe un amour général pour l'admiration. Je reconnais volontiers que je l'éprouve moi-même, tandis que vous ne l'aimez pas en particulier. C'est là sans doute ce que vous voulez dire. C'est ainsi que l'on décide toujours la question. Tout le monde est bien disposé pour reconnaître un désir général pour la bonne opinion des autres. Mais la moitié du monde a honte d'en convenir lorsqu'il s'applique à un cas particulier. Tout le monde est bien disposé pour reconnaître un désir général pour la bonne opinion des autres, mais la moitié du monde a honte d'en convenir lorsqu'il s'attaque à un cas particulier. Or, j'ai trouvé dans mon jugement que céder est naturel pour tous. Si céder est naturel pour tous, il doit l'être aussi en particulier. C'est pourquoi je maintiens les deux côtés. Mais cela me paraît mesquin, dit la petite bonne jeune personne. Oui, c'est mesquin, en effet, et trivial de vivre pour être admiré. Mais il n'est pas vil d'en jouir lorsque vient l'admiration, ou même de la rechercher. Si en faisant cela, nous ne négligeons pas des intérêts plus chers. Tous les sentiments que Dieu a mis en nous sont purs et honorables jusqu'à ce que nous les pervertissions. Mais Alice, je n'ai jamais entendu parler avec autant de franchise que vous. Là, on peut distinguer en toute franchise tout ce qui est innocent et naturel. Tout ce qui ne l'est pas, on ne devrait pas le penser. Nous avons un instinct qui nous commande quelquefois taire, mais si nous devions parler, que ce soit en toute sincérité et en toute franchise, permettez-moi de vous demander, Alice, si vous croyez que vous êtes belle. Vous n'attendez pas que je fasse la révérence devant chaque chaise avant de vous répondre, dit Alice. Mais si vous me dispensez de cette cérémonie, je vous dirai franchement que je le crois. Et croyez-vous être bonne? Pas tout à fait, dit Alice. Mais ne pensez-vous pas que vous valez mieux que bien des gens? Autant que je puis dire, je crois que je suis mieux que certaines gens, mais En vérité, que je ne m'en rapporte pas à mon jugement là-dessus, personnel. Encore une question, Alice. Laquelle de nous deux pensez-vous que James Martin aime le mieux? Oh, je le sais. Non, je ne vous demande pas ce que vous savez, mais ce que vous pensez, car vous devez y avoir pensé quelquefois. Oui, alors je pense qu'il me préfère. Et au même instant, la porte s'ouvrit et le susdit James Martin entra dans la chambre. Il se rougit, parut un peu confuse et continua de coudre, tandis que la petite jeune personne commença ainsi. En vérité, monsieur James, si vous étiez venu une minute plus tôt, vous eussiez entendu la confession d'Alice. Qu'a-t-elle donc confessé? Demanda James. Eh bien, qu'elle est plus belle et meilleure que bien des gens. Il n'y a pas là de quoi avoir honte, fit James. Oh non, ce n'est pas tout. Elle veut paraître jeune. Elle aime d'être admirée et tout. Et tout cela lui ressemble parfaitement, dit James en regardant Alice. Mais de plus, elle vient de prêcher un sermon pour la justification de la vanité et de l'amour-propre. Alors, la prochaine fois, il faudra prendre des notes quand je parlerai et quand je prêcherai, dit Alice. Car je ne crois pas que votre mémoire soit remarquablement heureuse. Vous voyez, James, qu'Alice se fait un joie, un point d'honneur de dire l'exacte vérité quand elle le décide et quand elle décide à parler. Et je l'ai embarrassée de questions. Je voudrais bien que vous lui en posassiez quelques-unes pour voir ce qu'elle vous répondrait. Mais voici mon oncle qui vient me redemander de me chercher pour faire une promenade en voiture. J'y cours. Et la linotte s'envola, laissant James et Alice en tête-à-tête. Oui, il y a en vérité une question, dit James, éclaircissant sa voix. Alice le regarda. Oui, il y a une question, Alice, à laquelle je voudrais bien que vous me répondissiez. Alice ne voulait pas savoir quelle était cette question, mais elle commença de prendre un air grave. Et dans ce moment même, la porte se referma, de sorte que je ne pus jamais savoir la question pour laquelle James, l'ami d'Ali, voulait obtenir un éclaircissement.